BFM Business, le grand journal de l'écho, Edwige Chevrillon.
Le grand journal de l'écho avec Michel Combes, aujourd'hui président de SoftBank Groupe International. Bonsoir Michel Combes.
Bonsoir.
Merci d'être là, ici enfin en studio, parce que d'habitude vous êtes plutôt aux États-Unis, hein, entre New York et Miami.
Absolument, donc, là, vous êtes... c'est toujours plus plaisant d'être en studio.
Absolument, je vous le confirme, même si les circonstances sont un peu compliquées d'abord pour SoftBank, hein. Ça a été quand même un 2021 quand même un peu difficile, au moins qu'on puisse dire. Vous nous direz un peu s'il faut s'inquiéter, si un peu un naufrage de SoftBank, qu'est-ce qui s'est passé alors que ça allait très bien l'année précédente. Et puis il y a quand même cette grande question, vous qui maintenant œuvrez après les télécoms, œuvrez beaucoup dans la tech et notamment la tech française. Vous avez investi dans toutes les plus grosses licornes françaises. Qu'est-ce qui se passe sur les technologies? Est-ce qu'on est face à un crack ou pas? Et surtout, est-ce qu'on est face à un crack de l'ampleur de celui des années 2000?
D'abord SoftBank.
Quand vous voulez, SoftBank, allons-y.
Donc d'abord sur SoftBank, je vous rassure. Oui. SoftBank se porte bien.
Enfin, bon, les chiffres sont pas...
Oui, les chiffres...
On va les rappeler, si vous voulez.
Non, non, mais les chiffres reflètent la situation économique. Vous savez, nous sommes un gestionnaire d'actifs. Mmh. Donc tous les trimestres, nous devons ajuster la valeur de l'entreprise à la valeur des actifs que nous avons dans le portefeuille. Comme il y a eu une baisse significative de la valorisation des actifs au cours des mois qui viennent de s'écouler, effectivement, nous avons affiché une perte substantielle sur le dernier trimestre qui vient de s'effectuer. Ceci dit, il y a quelques trimestres, le mouvement avait été exactement dans l'autre sens. Je crois que le plus important à rappeler, c'est que nous sommes un investisseur de long terme. Donc, la valorisation instantanée n'a pas beaucoup de sens, puisque nous avons toujours dit, nous sommes un investisseur patient. Ça fait 40 ans que nous investissons dans la technologie avec un return d'un peu plus de 40% en moyenne, ce qu'on appelle le TRI. Et donc, nous n'avons aucune inquiétude sur le moyen-long terme, sur la valorisation du portefeuille et des actifs de SoftBank. Oui.
C'est quand même une perte en 2021, plus de 12 milliards, c'est ça?
C'est ce que je vous disais, c'est une perte significative. On était sur un gain d'un peu plus de 20 milliards l'année précédente. Donc, encore une fois, il faut faire attention à la photographie en instantané et à la vision sur le moyen-long terme. La stratégie de SoftBank est claire, c'est d'investir sur la technologie, sur une transition numérique, digitale, dont on parle beaucoup, qui est au cœur de l'évolution des secteurs économiques et sur laquelle, aujourd'hui, nous pensons que les évolutions à venir nous donneront encore raison.
Certes, Michel Combes, mais si vous êtes arrivé, vous avez fait la fusion, justement, aux États-Unis, la fusion en télécom, si vous êtes arrivé chez SoftBank, c'est notamment pour vous occuper de WeWork, qui était, pour le coup, un véritable naufrage. Donc, il y a quand même eu des investissements qui se sont avérés extrêmement difficiles et donc forcément un impact sur SoftBank.
Alors vous prenez WeWork, juste en deux mots, effectivement une situation difficile en 2019. Le président de SoftBank, Masa San, me demande d'aller voir. Nous avons depuis réinvesti un peu d'argent chez SoftBank. Nous avons remis l'entreprise en état et donc l'entreprise sera profitable en fin d'année et générera du cash dès l'année prochaine. Donc pour une entreprise qui était en naufrage, si vous voulez, c'est une entreprise que nous avons pu remettre en position de gagner et qui aujourd'hui incarne les nouvelles façons de travailler. Donc c'était un investissement aussi de long terme. On s'était un peu égaré en termes d'exécution opérationnelle. On a remis de l'ordre dans l'entreprise et cette entreprise est aujourd'hui une entreprise cotée qui se porte bien et qui a d'ailleurs publié des résultats très bons au cours du trimestre qui vient de...
Donc SoftBank n'a pas besoin d'un nettoyage, un perdre la rigueur que vous incarnez, Michel Combes. Beaucoup moins, vous avez incarné plusieurs fois.
Pas du tout. J'espère que j'incarne un peu plus que la rigueur et aussi la croissance et le développement des entreprises. Je pense que, comme l'a dit Masa San récemment, évidemment, dans le contexte actuel, nous devons faire attention à la situation macroéconomique que nous traversons. Donc, notre priorité, c'est de générer du cash de manière à avoir des ressources disponibles pour continuer à investir. Nous avons un peu plus de 20 milliards de cash sur le bilan de SoftBank. Donc, pour une entreprise qui serait dans une situation difficile, un peu plus de 20 milliards de cash sur le bilan pour pouvoir investir. Vous voyez qu'on est encore dans une situation tout à fait convenable et confortable.
Mais les pertes étaient quand même assez élevées. Vous voyez,
des pertes significatives, alors, mais donc des réserves de cash très importantes et en même temps donc un peu plus de discipline dans les investissements à venir, comme tous les fonds d'investissement, c'est-à-dire un ralentissement des investissements en attendant que la conjoncture s'améliore.
Voilà, et ben on arrive très bien au deuxième sujet. Vous avez investi dans les plus grandes licornes françaises, hein, je le disais, que ça soit Swile, Canton Square, Sorare. Il y en a bien d'autres encore. La question qu'on peut se poser, c'est, vous dites, un peu plus de discipline. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça va se traduire dans les investissements que vous avez faits ou que vous allez faire? Est-ce que vous appuyez sur la pédale?
Je dirais qu'il faut être clair. En 2021, le marché avait beaucoup de liquidités. Donc, ce qui fait qu'il y a eu énormément d'investissements. Je crois qu'il y a eu un peu plus de 1 trillion d'investissements en private equity aux États-Unis en 2021 et un peu plus de 700 milliards en Europe. Donc, vous voyez un afflux massif de liquidités qui, évidemment, a inflaté un peu la valorisation des actifs. Aujourd'hui, on est dans une situation qui est un peu différente. Les liquidités se sont un peu asséchées. Le marché est en attente de ce qui va se passer compte tenu du contexte macroéconomique. Donc, il est plus difficile pour les entreprises de lever de l'equity et ou de pouvoir s'endetter. Donc, dans cette situation, que fait-on et que demande-t-on aux CEO des différentes entreprises? On a un peu plus de 400 entreprises dans notre portefeuille. Donc, le mot d'ordre, c'est de leur demander de gérer un peu dans la durée, de réduire leur consommation de cash pour pouvoir être dans une situation confortable au moment où l'économie redémarra. En ce qui nous concerne, nous continuons à investir. Nous investissons moins que le niveau d'investissement que nous faisions en 2021, mais nous continuons à accompagner notamment les entreprises de notre portefeuille. Nous faisons moins d'investissements dans des entreprises nouvelles. Par contre, nous investissons encore plusieurs centaines de millions sur le premier trimestre pour accompagner les entreprises de notre portefeuille qui ont besoin d'un peu de cash pour continuer leur croissance, pour se développer, pour faire des opérations.
Mais c'est quand vous avez dit un peu le mot-clé, c'est-à-dire qu'il faut quand même réduire leur consommation de cash. On sait que une licorne, ça consomme, enfin, une entreprise de la tech, ça consomme par essence énormément de cash. Est-ce que ça veut dire, comme ça commence déjà à se voir ici ou là, ou un peu plus qu'ici ou là, des licenciements dans les entreprises de tech?
On n'en a pas vu beaucoup, à ma connaissance, de licenciements dans les entreprises de tech. Ce qui est certain, c'est que les entreprises de tech, certaines, je parle pas de la France d'ailleurs, ont beaucoup embauché en 2021, puisqu'elles étaient sur des perspectives de croissance qui étaient très 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 rapides. Compte tenu aujourd'hui de perspectives de croissance qui sont un peu moins rapides, mais c'est encore des entreprises, toutes ces entreprises sont encore en croissance, évidemment elles vont moins embaucher dans les trimestres qui viennent que ce qu'elles ont pu faire en 2021. Donc je pense qu'on est plutôt sur un ralentissement des embauches.
Alors après, c'est ça, c'est le message que vous faites passer aux entreprises dans lesquelles vous êtes.
Le message.
Réduisez la voilure.
Comme vous le savez, j'ai été chef d'entreprise. Oui. Comme vous le savez, il faut s'ajuster à l'environnement dans lequel vous œuvrez.
Oui, justement.
Comme personne ne sait exactement quand et comment l'économie reprendra, et donc quand la liquidité va revenir dans le marché, il est important de pouvoir conserver du cash sur le bilan d'entreprise, de manière à pouvoir faire face aux échéances de l'entreprise à venir. Et par ailleurs, je veux dire, les actionnaires que nous sommes, encore une fois, nous sommes un actionnaire de long terme, sont là pour soutenir et supporter les entreprises si effectivement il y avait une période difficile à passer. On l'a prouvé, on l'a montré. Je vous rappelle, Alibaba, on a investi en 2000, on est toujours le principal actionnaire d'Alibaba 22 ans après. Donc nous sommes là pour accompagner les entreprises pendant les bonnes et les moins bonnes périodes. Mais effectivement, le mot d'ordre pour les entreprises, c'est de leur dire, compte tenu de la situation actuelle, soyons raisonnables sur la façon dont on gère les ressources financières de l'entreprise.
Alors, crack ou pas crack?
Je ne suis pas un économiste.
Non, vous êtes dans la tech, Michel Combes. Vous voyez ce qui s'est passé à Wall Street. C'est un peu le bain de sang à Wall Street. Est-ce que pour vous, on est dans un vrai crack des valeurs tech?
On a un ajustement significatif des valeurs tech. Mais je dirais que c'est assez normal et raisonnable. Rappelez-vous, 2021, Covid, notamment dans le tech, très forte accélération de la transition digitale, beaucoup d'argent disponible, qui s'est donc investi dans la technologie. Je vous ai dit, 2 trillions quand je regarde à la fois les États-Unis et l'Europe. Ceci, bien entendu, a pesé sur la valorisation des entreprises. 2021, la valorisation des entreprises a augmenté de manière très significative.
Trop ?
2022...
Est-ce qu'il y avait une bulle ?
Je crois que... Alors, je pense pas qu'on puisse parler de bulle. Il y avait une inflation du prix des actifs. Ouais. Ce qui se passe en 2022, inflation. 2022, contexte macroéconomique beaucoup plus difficile. Donc 2022 signifie ralentissement. Ne signifie pas que la transition numérique va s'arrêter, que ce que les investissements qu'on fait en intelligence artificielle vont continuer. Le rythme se ralentit un peu et donc la valorisation des entreprises s'appuie sur les perspectives de moyen long terme. Si vous avez un ralentissement léger de ces évolutions et si en plus vous avez de l'inflation, forcément ça se répercute dans le prix des actifs. Donc pour moi, c'est un événement transitoire. Sur le moyen long terme, les perspectives restent fortes et nous investissons avec une vision de moyen long terme. Donc je ne suis pas soucieux des valorisations auxquelles nous avons investi en 2021.
Mais par exemple, si je prends Sorare au hasard, vous avez la valo, elle a chuté, vous avez perdu combien pour l'instant ?
On n'a pas perdu d'argent sur Sorare.
Oui, non, mais parce que vous n'avez pas, évidemment.
Non, mais Sorare est une entreprise...
Incroyable.
Mais... Formidable. Oui. Est une entreprise qui génère du cash. Est une entreprise qui a sécurisé des droits
dans les NFT, hein, pour
dans le monde entier. Donc c'est aujourd'hui qui est une entreprise qui est dirigée par Nicolas Julia, qui est un entrepreneur de talent et qui est une des entreprises les plus profitables du secteur technologique, qui est une entreprise dans laquelle nous sommes heureux d'être rentrés. Et vous verrez, l'entreprise va continuer sa marche en avant. C'est un des acteurs qui a connu un succès foudroyant en 2021 et qui ne se dément pas en 2022. En croissance positive en cash et qui continue à se développer.
Alors justement, il y a certains qui disent que les NFT ont un peu... L'heure de gloire des NFT est un peu derrière nous. Il y a eu le crash des bitcoins, hein, enfin au sens large. Est-ce qu'on n'est pas un peu dans le même scénario ?
Non, parce qu'encore une fois, alors vous allez dire que je suis optimiste, mais NFT, bitcoin, c'est derrière, il y a une technologie... qui est la blockchain, qui est une technologie d'avenir, qui est un peu ce qu'on appelait le Web 3.0. Donc le Web 2.0, c'était le transport d'informations. Aujourd'hui, maintenant, c'est le transport de valeur au travers des NFT. Je pense que c'est une transformation, une révolution technique très importante, qui nécessite évidemment d'avoir des cas d'investissement qui soient satisfaisants. Sorare utilise la blockchain, Sorare utilise les NFT, c'est le Panini du digital.
Ah ben complètement.
Et donc qui permet
donc,
non
vous,
seulement
y a pas
d'acheter
de...
et de vendre des
cartes, mais en plus...
Il n'y a pas d'inquiétude parce qu'encore une fois, sur le moyen long terme, c'est une technologie excessivement puissante qui va changer et que beaucoup d'entreprises utilisent en interne, y compris des entreprises plus anciennes. Je dirais les grandes banques internationales utilisent les NFT ou utilisent les cryptos pour des échanges interbancaires.
Et une question quand même, c'est que vous nous avez dit, vous pensez pas, il n'y a pas de, vous n'avez pas d'inquiétude sur le moyen long terme. Mais il y a quelque chose qui se passe à court terme, c'est la pénurie de semi-conducteurs. Or, les techs, bah, si vous n'avez pas de semi-conducteurs, c'est très compliqué, parce que ça repose beaucoup, justement, sur l'utilisation, le développement qui passe à travers ces semi-conducteurs.
Oui, alors, on a une agrégation de choses qui se passent. C'est pour ça qu'on a un ralentissement.
Moment difficile.
La pénurie des semi-conducteurs, pourquoi ? 2020-2021, une explosion de la transformation digitale. Donc nous n'avions pas une fabrication de semi-conducteurs suffisante pour pouvoir accompagner cette transformation. Mmh. Depuis, les grands acteurs du semi-conducteur, nous en sommes un au travers de ARM, mais les grands acteurs autres type Intel et autres...
Oui, entreprise que vous avez en Grande-Bretagne.
Une entreprise que nous avons en Grande-Bretagne, sont en train de construire de nouvelles usines de production pour pouvoir faire face à cette demande. Donc vous avez un ajustement d'offre-demande, plus problème sur les chaîne logistique dont on a beaucoup parlé compte tenu de ce qui se passe en Chine également. Donc on a un certain nombre d'éléments conjoncturels qui font qu'effectivement, mais c'est pour ça que je vous dis, à court terme, bien sûr, il y a un ralentissement. La réponse à votre question précédente, c'était de dire, si je me projette sur le moyen long terme, la transition digitale, la transition énergétique, l'utilisation de la data dans l'économie sont des phénomènes durables. Donc comme nous investissons sur des entreprises qui utilisent ces leviers pour transformer l'économie mondiale, je dirais que je n'ai pas d'inquiétude sur le moyen long terme. Et donc on peut avoir une valorisation qui monte, qui baisse un peu. Ce qu'on observe après chaque crise, chaque crack, c'est que les entreprises technologiques positionnées sur les technologies de long terme sont celles qui rebondissent le plus vite et le plus haut après chaque événement de ce type.
Oui, je vois que vous utilisez mon crack hein, quand même.
J'utilise parce que vous l'avez utilisé.
Bah, oui, mais moi je ne suis pas la spécialiste, c'est pour ça que moi je m'étais...
Appelons un chat un chat. Il y a eu un ajustement très fort des valeurs des entreprises sur les marchés financiers. Clairement.
Ça veut dire quoi, notamment sur la tech française ? La tech française, on le verra, il y a un baromètre d'attractivité qui sort dans quelques heures. On voit que la France lève des fonds, mais en même temps, on voit Intel qui investit quand même d'abord en Allemagne, Tesla qui fait sa Gigafactory en Allemagne. Qu'est-ce qui nous manque à nous, Français ? Vous qui êtes Français, mais qui en même temps naviguez beaucoup dans l'univers international.
Moi, je suis absolument époustouflé par la qualité de la tech française et des entrepreneurs français. et je le dis pas uniquement parce que je suis français, comme vous le savez, j'ai été en position dans différentes entreprises. Je suis revenu, je m'étais un peu éloigné pour aller diriger Sprint aux États-Unis. Je suis revenu il y a un an, et donc à l'issue de ce voyage, on a fait plusieurs milliards d'investissements sur la France, parce qu'on a trouvé des entreprises, des entrepreneurs de qualité, grâce à ce qui a été fait par les pouvoirs publics au cours des années qui viennent de s'écouler, c'est-à-dire à la fois en termes de législation sociale, de législation économique, de mise en place de fonds d'investissement early stage qui ont permis à des entreprises de commencer à se développer. Et donc je pense que nous avons en France des compétences et des qualités absolument incroyables. On a aujourd'hui 26 unicornes qui se développent. On est un investisseur heureux dans ces unicornes.
Au total, vous avez investi combien?
Alors on ne donne pas le chiffre exact, de l'ordre de 2 milliards.
2 milliards.
Ce qui pour nous est important.
En un an, vous allez investir la même somme?
Probablement moins, parce que pour l'instant, je dirais que les niveaux d'investissement globaux sont en train de se réduire. Mais la France reste une destination prioritaire. On avait investi essentiellement au départ en Chine, en Inde et aux États-Unis, qui étaient un peu les territoires de développement de l'innovation. L'Europe s'est reprise, on a investi de manière assez significative, on a investi un peu plus de 40 milliards sur l'Europe. On n'avait quasiment pas investi en France, et donc en 2021, nous avons décidé de venir investir en France. Je peux vous dire qu'on a été très bien reçus, et qu'on est très heureux, et qu'on a des entrepreneurs qui sont absolument époustouflants.
Dernière question, je recevais Stéphane Richard un petit peu, c'était son mot d'adieu après avoir dirigé pendant 11 ans Orange, et vous qui étiez dans les télécoms. Deux questions, est-ce que vous pensez que la consolidation elle est morte dans les télécoms en France? Et puis deuxième question, est-ce qu'il faut faire payer les bandes passantes aux GAFAM? Éternelle question.
Donc d'abord, je trouve que Stéphane a fait un job extraordinaire, que sa successrice qui travaillait avec moi chez Alcatel est formidable, Christelle. Donc c'est une belle transition à la tête de cette entreprise, qui est une entreprise excessivement talentueuse. Deux, je pense que la consolidation n'est pas morte, il faudra trouver les moyens de le faire.
Mais est-ce qu'il la faut? Est-ce qu'elle est nécessaire?
Oui, bien sûr.
D'accord, non, mais je sais pas.
Oui, bien sûr qu'elle est nécessaire, parce que le niveau d'investissement est tel qu'avoir la fragmentation que nous voyons en Europe n'a pas de sens. Et quand on regarde des grands continents, que ce soit les États-Unis ou la Chine, on a eu cette consolidation. Donc la consolidation est nécessaire. Et après, oui, il faudra trouver un modèle économique qui fait que ceux qui utilisent l'infrastructure des opérateurs de télécommunications puissent aussi payer pour l'usage de cette infrastructure, de manière à ce qu'on puisse continuer à investir. La 5G, la fibre optique, c'est le système sanguin de l'économie mondiale. Donc j'espère que l'Europe et la France en particulier vont pouvoir continuer à accélérer les investissements. Et je compte sur Christelle.
Voilà, Christelle Edman, vous avez compris, la directrice générale désormais d'Orange. Merci Michel Combes.
Merci.
Vous êtes venu ici, donc le patron de SoftBank International. Merci beaucoup. Dans un instant, le journal de Faiza Younzi. Ensuite, c'est Benjamin Guéniaud, c'est plus qu'une start-up. Je ne sais pas, il n'est pas encore licorne. Le patron fondateur d'Ornicar. Vous avez, vous passez ses permis de conduire. C'est très important pour les jeunes. 85% estiment que c'est aussi important que de trouver son premier job. A tout de suite.
BFM Business, le grand journal de l'écho, l'alerte, le chiffre.
Bonsoir Emmanuel.
Bonsoir Edwige.
Qu'est-ce qu'on mange si on ferme les frontières? C'est ça que vous allez nous raconter après
tout. Et oui, exactement. Alors la question peut paraître un peu extravagante quand même, de se dire on va quand même pas fermer les frontières agricoles, sauf que quand même on a un scénario catastrophe aujourd'hui qui est très clairement en train de se dessiner, c'est-à-dire la guerre en Ukraine, le Covid, les catastrophes météo qui ont réduit énormément de production agricole, alors les céréales et le blé notamment en tête, conséquence des prix qui s'envolent, des mesures protectionnistes qui se multiplient. Il y a aujourd'hui plus de 40 restrictions à l'export prises par une vingtaine de pays. La Russie, ne serait-ce que cet après-midi, vient d'annoncer par exemple que les exportations entravées par les sanctions serviraient en priorité à remplir les réserves russes plutôt qu'à être exportées. Résultat, le PNUD, le programme des Nations Unies sur l'alimentation, craint des famines sur les 5 continents.
Mais Emmanuel, si les frontières se fermaient, les agriculteurs français seraient-ils capables de nous nourrir, de nourrir les Français?
Alors, globalement, oui, puisque une des mesures qu'on utilise pour évaluer l'autosuffisance, c'est la production de calories. Or, on voit bien qu'aujourd'hui, la France produit 30% de calories en plus que ce qu'elle consomme. Sauf que, qu'est-ce qu'on met dans notre régime alimentaire ? Alors d'abord, notre régime alimentaire, il est déjà bien plus varié que notre production, incluait déjà tous les produits exotiques qu'on ne trouve pas pour des raisons climatiques chez nous, le café, le cacao...
Les kiwis, les avocats...
Même si kiwis, on commence à en trouver, avocats, fruits exotiques, bref, voilà. Après, il y a les productions tout à fait viables sous nos climats, mais qu'on a laissé péricliter ou s'affaiblir parce qu'elles perdaient en compétitivité. Songez quand même que depuis 20 ans, les surfaces des vergers pour les principaux fruits, donc prenez les abricots, les cerises, les pêches, les prunes, les poires, les pommes, a baissé de 40%, 40% de surface en moins de vergers. Pareil pour les maraîchers, les légumes, moins 25% pour les carottes, moins 20% sur les courgettes, moins 35% sur les brocolis et les choux-fleurs. Et le commissariat au plan a calculé un taux d'auto-approvisionnement. C'est-à-dire, en gros, si on ne compte que sur la production nationale, de quelle façon on est autonome? Et 37% seulement pour les tomates. C'est-à-dire que si on ne comptait que sur les tomates françaises, 37% seulement de la consommation d'aujourd'hui. 30% pour tout ce qui est légumineuses, les lentilles, etc. 13% pour le raisin. C'est aussi vrai du poulet. La France n'est plus autosuffisante en poulet depuis 2014. Et encore plus pour les protéines utilisées pour le bétail. Alors, les secteurs où on pourrait satisfaire nos besoins, les céréales, pommes de terre, les vins et spiritueux, la viande de bœuf très largement, le porc tout juste, on est à l'équilibre entre la production nationale et la consommation nationale. Au final, la France importe 20% de son alimentation. Donc, pour résumer, le régime alimentaire qui nous attend, si il fallait être totalement autosuffisant, ce serait steak patate, vin rouge. Voilà, vin rouge avec modération, bien entendu.
Il y a pire. Le problème de la souveraineté agricole. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Emmanuel Le Chypre, à suivre Benjamin Guaignot, président cofondateur d'Ornicar.
BFM Business, le grand journal de l'écho, Edwige Chevrillon.
Grand journal de l'écho avec justement une valeur tech intéressante de savoir aussi son témoignage. Benjamin Guaignot qui est le président et cofondateur d'Ornicar, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être là Benjamin, vous êtes aussi président de la Fédération des enseignants et auto-écoles d'avenir.
Tout à fait.
C'est bien, c'est vous qui l'avez créé cette fédération ?
Oui, tout à fait.
Voilà,
ouais.
Et vous êtes le seul adhérent ?
Non, avec les deux autres concurrents auto-écoles en ligne.
D'accord. Non, plus sérieusement, vous avez entendu peut-être Michel Combes de SoftBank, donc un des plus gros investisseurs ici en France, près de 2 milliards, je ne sais pas s'il a investi chez vous. Non, il m'a dit non, qu'il n'avait pas investi parce qu'il est arrivé trop tard.
Exactement.
Exactement. Bon, est-ce qu'on vous demande, à vous, justement, de mettre le frein sur la pédale d'arrêter l'hypercroissance, pour reprendre l'expression consacrée, et de réduire la consommation de cash?
Il est indéniable qu'on est au début d'une crise qui va avoir un impact sur le financement de la tech. Donc, le paradigme change pour nous, entrepreneurs de la tech. C'est qu'historiquement, on disait la profitabilité ne compte pas vraiment. Ce qui compte, c'est l'hypercroissance. Donc, on vous met beaucoup de cash sur la table pour aller chercher des points de croissance, acheter du temps et aller très vite. Aujourd'hui, avec la crise de financement qu'on est en train de démarrer, effectivement, maintenant, le paradigme change un petit peu et on nous dit, OK, allez chercher de la croissance, elle ne sera peut-être pas aussi vertigineuse qu'avant, mais de la croissance avec une voie vers la profitabilité. Et donc, c'est une croissance sous contrainte de rentabilité qui va venir juste nous imposer de changer un tout petit peu la façon dont on prévoyait nos ambitions et notre croissance. L'ambition reste la même. Le temps pour y arriver va être plus long. Finalement, une levée de fonds, ça vous sert à quoi ? Ça sert à acheter du temps. Et aujourd'hui, on a plus de temps que de cash. Et en 2021, on avait plus de cash que de temps.
Oui, d'accord. Donc, ça change votre stratégie, on est d'accord ?
Bien sûr que ça change la stratégie. Il faut s'adapter. Nous, aujourd'hui, ça nous va assez bien parce que ça permet aussi à Ornicar de dire, OK, on va travailler sur nos priorités. La concurrence, la compétition, sur les talents, sur les levées de fonds, va un peu se calmer. Et ce qui fait qu'on peut... vraiment travailler sur nos fondamentaux pour pouvoir préparer la sortie de crise.
Ça veut dire que l'inflation sur les talents, c'est terminé ?
Je ne sais pas si c'est terminé, mais ce qui est certain, c'est qu'il y a beaucoup de scale-up licornes qui ont gelé 100% de leur recrutement ces dernières semaines.
Ouais. On dit même qu'il y a une cinquantaine de plans de licenciement à peu près.
Alors ça, je n'ai pas d'infos là-dessus.
Chez vous ?
Pas de licenciement.
Non.
Nous, on est en train de revoir la stratégie pour pouvoir s'adapter au nouveau contexte. Ornicar, c'est de toute façon, ça a été une boîte qui était rentable en 2018. On a décidé de ne plus être rentable pour pouvoir aller chercher des points de croissance supplémentaires. Retravailler sur le chemin de la profitabilité, c'est clairement pas un obstacle majeur pour nous.
Ouais. Ça veut dire aujourd'hui, les chiffres clés de Ornicar, c'est quoi ?
Ornicard, l'année dernière, on fait 65 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ouais. On a actuellement 240 salariés. On est présent en France et en Espagne. Et aujourd'hui, 90% de notre activité est quand même générée par l'activité auto-école et 10% sur la partie assurance auto qu'on a lancée il y a maintenant 18 mois.
Oui, on va rappeler pour ceux qui ne connaisseraient pas, ça doit exister quand même, Ornicard. Si vous voulez passer votre permis de conduire et que vous n'y arrivez pas, bah, Ornicard vous permet de le faire. Et justement, moins cher qu'avant, encore moins cher qu'avant.
Exactement. Pour nous, chaque crise devient une opportunité puisqu'on a une solution. On propose une formation au permis de conduire, l'examen le plus passé en France, mais l'examen le plus passé dans le monde, moins cher que n'importe quelle auto-école traditionnelle qu'on peut connaître. Et d'ailleurs, c'est aussi à ce sujet-là, pour amorcer cette crise, qu'on a décidé de réduire le coût, à la fois pour le code de la route. Donc le code de la route aujourd'hui est passé à 0,99 centimes par mois via notre nouvelle application, ou 4,99 euros par an, et également pour la conduite, où on est passé de 749 à 729 euros pour un pack 20 heures. L'idée ici, c'est de pouvoir adresser le pouvoir d'achat, les problématiques des Français sur le permis de conduire, et que grâce à notre activité d'assurance auto qui fonctionne très bien, ça nous permet de dégager de la rentabilité sur une autre activité, et donc de baisser un peu le coût du permis de conduire.
Oui, parce qu'il y a justement, il y a eu un sondage qui démontrait que pour 85% des jeunes, d'abord, un, c'était aussi important que son premier job, et puis surtout, c'était l'outil indispensable pour décrocher ce premier job.
Bien sûr, souvent on le qualifie de passeport pour l'emploi. Aujourd'hui, son permis de conduire, avoir son permis de conduire, c'est indispensable. Alors beaucoup de personnes qui habitent effectivement à Paris ou dans les grandes villes disent bah j'en ai pas vraiment besoin. Mais quand vous allez avoir des enfants, quand vous allez devoir trouver un boulot, quand vous allez partir en province, etc., à chaque fois, le permis de conduire devient un sésame précieux et indispensable pour accéder à la mobilité.
Ouais. Donc aujourd'hui, vous passez à le code de la première heure de conduite, c'est à 34,90 euros, c'est ça, au lieu de 5, donc c'est une baisse de 20 euros, c'est quand même assez considérable.
Pour nous, même le marché, donc l'auto-école traditionnelle, c'est en moyenne 55 euros. Donc effectivement, aujourd'hui, on propose une offre véritablement moins chère qui permet aussi plus de flexibilité. Si vous commencez votre formation à Paris et que vous devez déménager en province, aujourd'hui, Ornicard est présent dans 200 villes en France.
Pourquoi ça bloque? Pourquoi c'est aussi difficile en France? En fait, il y a une question de prix, et puis évidemment, et puis une question aussi de goulot d'étranglement. Donc, j'imagine.
Évidemment, aujourd'hui, pourquoi ça fonctionne pas? C'est le modèle traditionnel des auto-écoles qui se voit attribuer très peu de places d'examen. Donc, une auto-école a la décharge et elle ne peut pas accueillir autant d'élèves qu'elle le souhaite et donc elle ne peut pas diluer ses charges. Le vrai sujet, si on veut baisser le prix du permis de conduire, c'est les délais pour obtenir une place d'examen. Aujourd'hui, vous avez à peu près 400 000 élèves qui sont en attente d'une place d'examen pour l'épreuve pratique du permis de conduire en France.
400 000.
Ça a explosé avec les confinements successifs et on se retrouve dans une situation qui est véritablement problématique puisque quand vous devez attendre, par exemple, à Paris 12 mois pour avoir une place d'examen, et que vous échouez, vous devez réattendre 12 mois. Il faut reprendre des heures de conduite pour garder le niveau pendant les 12 mois d'attente. La vraie bonne nouvelle, c'est que l'administration, l'État, a lancé un nouveau système qui s'appelle Rendez-vous Permis, qui a aujourd'hui été déployé dans à peu près la moitié de la France, toute la moitié sud de la France, et qui permet réellement aux candidats d'auto-école en ligne comme Ornicard de pouvoir accéder à l'examen du permis de conduire dans des délais beaucoup plus raisonnable. Aujourd'hui, il est possible de passer son permis en 1 ou 2 mois dans la moitié sud de la France et la moitié nord a pour projet de se déployer d'ici fin 2022.
Oui, d'accord. C'est bizarre que ce ne soit pas sur l'ensemble de l'Hexagone, non?
C'est l'administration, on fait petit à petit, on essaye de ménager les susceptibilités de chacun et de s'assurer que finalement cette expérimentation qui est devenue ce nouveau projet pour pouvoir distribuer les places d'examen soit un succès.
Lorsque, je ne sais pas, c'était Bruno Le Maire qui disait justement une proposition, c'est presque de rendre gratuit pour certains le permis de conduire. Est-ce que vous y seriez favorable? Ou alors, pour vous, non?
Pour nous,
ça serait une manière de céder à votre branche.
Effectivement. En revanche, ça veut dire quoi, le rendre gratuit? Ça veut dire, est-ce que c'est l'État ou le compte personnel de formation, comme c'est le cas aujourd'hui, qui permet de financer les formateurs que sont les auto-écoles? Nous, on n'y voit pas d'inconvénient. Aujourd'hui, presque 20% de notre activité, c'est drivé par le compte personnel de formation. Chaque personne qui travaille cotise pour de la formation, il a un compte personnel de formation et peut l'utiliser pour son permis de conduire. Nous, une des propositions qui pourrait être intéressante, c'est de permettre la transférabilité entre le compte personnel de formation des parents et celui de l'enfant, pouvant permettre aux parents de financer via leur CPF le permis des enfants. Voilà, si ça veut dire ça, le rendre gratuit, avec plaisir. Après, le rendre gratuit, il faut juste trouver un financement qui paye, qui forme.
Ouais. Benjamin Gagnon, qu'est-ce qu'il faudrait vous avez dit tout à l'heure, on continue à investir, même si maintenant c'est fini l'hypercroissance, on se développe vraiment sur les fondamentaux. Finalement, vos fondamentaux, c'est quoi? C'est l'international? C'est l'Europe? C'est quoi?
Nos fondamentaux, c'est aujourd'hui là où on est présent. Donc c'est la France et l'Espagne. C'est la France sur améliorer toujours l'expérience utilisateur sur la partie auto-école France. C'est lancer des nouvelles offres d'assurance auto dans les mois à venir. C'est sortir des applications mobiles qui permettent maintenant à l'ensemble de nos élèves, que ce soit auto-école ou assurance, de pouvoir rester connecté avec Ornicard depuis son mobile de façon très facile. C'est renforcer tous les travaux qu'on est en train de mener pour imposer notre marque en Espagne. C'est tous ces sujets-là qui nous permettent de faire d'Ornica une boîte qui grossit. Alors on dit qu'on arrête l'hypercroissance, on prévoit quand même de faire, l'année dernière on fait 55% de croissance, cette année on devrait en faire 45. Donc on parle quand même de croissance relativement importante, mais cette fois avec un chemin vers la rentabilité qui est tout tracé.
Vous pourriez aller en Allemagne, en d'autres pays, Grande-Bretagne c'est plus compliqué peut-être, avec la conduite à gauche, je ne sais pas.
Alors oui, on a évidemment pour objectif...
Italie ?
D'ouvrir un maximum de pays européens, à la fois pour la partie éducation et à la fois pour la partie assurance auto. Donc on avait pour projet, c'est un exemple très concret, on avait pour projet d'ouvrir à peu près entre 4 et 5 nouveaux pays l'année prochaine. Mais ça, c'était sous contrainte de pouvoir accéder à des poches de financement plus importantes. Donc puisque là, les financements commencent à se tarir, il est tout à fait probable qu'on décale notre stratégie de déploiement international le temps que la crise du financement se tasse un peu et qu'il réouvre des poches d'investissement qui nous permettraient de déployer beaucoup de pays à la fois.
Est-ce que vous êtes favorable au fait qu'il y ait des sanctions moins importantes?
C'est-à-dire?
Pardon, excusez-moi, la bronchite.
Sur le permis de conduire, sur les excès de vitesse, etc. Alors, oui, on a vu passer effectivement pour les petits excès de vitesse pouvoir réduire, enfin ne plus prendre de points sur le permis de conduire. C'est évidemment quelque chose qui peut être souhaitable. Néanmoins, il va toujours y avoir l'amende qui est associée, etc. Mais vu le prix du permis de conduire, vu les délais pour obtenir une place d'examen, le moins on renvoie de candidats à l'examen du permis de conduire, plus fluide sera la formation pour les nouveaux accédants au permis de conduire.
Merci beaucoup. Oui, peut-être qu'on pourrait trouver quelque chose qui vous soigne de votre gorge. Merci Benjamin Gagnon d'avoir été
avec
nous.
Merci à vous.
BFM Business, le grand journal de l'écho. Edwige Chevrillon.
Notre invité, c'est un des plus grands noms italiens, c'est Giuseppe Lavazza, qui est vice-président du groupe Lavazza, forcément. Bonsoir Giuseppe Lavazza, merci d'être là. Si vous êtes là, c'est que vous avez signé un partenariat avec Roland Garros, ça fait 7 ans, vous l'avez re-signé jusqu'en 2025. Et donc, vous êtes de passage à Paris, beaucoup de questions à vous poser, parce que Lavazza, évidemment, c'est un des leaders mondiaux, ou des leaders mondiales du café, c'est carte noire, c'est 30 milliards, je crois, de tasses par an. Donc c'est vous dire, c'est important, mais vous devez faire affronter une hausse terrible des prix du café, et du coup vous-même vous avez augmenté vos prix. Juste peut-être d'abord une question sur comment est le climat économique en Italie?
Le climat en Italie est bon, parce que nous avons la bonne chance d'avoir heureusement un Premier ministre très actif qui gère avec beaucoup de responsabilité toutes les affaires politiques de notre pays, à l'intérieur comme à l'extérieur. Il a créé cette coalition parce que le président de la République a lui donné le pouvoir de faire ça. C'est pour la première fois, nous avons une coalition des partis transversales, c'est-à-dire des partis de centre-gauche et de centre-droit, qui appuient le gouvernement et donc l'action de M. Draghi.
Oui, donc Mario Draghi, effectivement, qu'on connaît bien aussi en France. Est-ce que les aides, parce que vous vous affrontez comme nous, en ce moment, il y a une discussion à Bruxelles pour savoir s'il faut ou pas un embargo total sur les prix du gaz, sur le gaz et sur le pétrole. Est-ce que pour vous, c'est acceptable cet embargo? Est-ce que vous pourriez le supporter?
Au point de vue réel de l'économie, peut-être que dans les brefs termes, est difficile. Mais Draghi a bien exprimé les points de vue, je pense, du gouvernement qui est aligné avec tous les alliés européens, c'est-à-dire pour couper les relations avec la Russie. Il la recherche toujours d'envoi diplomatique, c'est très important. Les caps sur les prix du gaz qu'il a proposé beaucoup de fois en Europe comme solution pour mitiguer la hausse de prix de l'énergie. Et bien sûr, oui, l'Italie, avec M. Draghi, a bien exprimé la position d'être contre, bien
une
sûr.
Une position ferme.
Oui,
ouais. Position ferme. Mais pour vous industriels, hein, je rappelle que vous faites plus de 2,3 milliards de chiffre d'affaires, vous êtes sur, vous avez 9 usines, vous êtes présent dans 140 pays, donc groupe très important. Est-ce que là, ça vous coûte combien cette hausse, cette flambée des prix de l'énergie ?
Coûte beaucoup, parce que le Brésil était frappé par un gelé l'année passée qui a détruit une part de récolte, donc les prix sont explosés.
Là, j'étais sur l'énergie, juste sur le prix de l'énergie.
Ah, le prix de l'énergie, oui, ça c'est aussi un problème, parce que bien sûr, nous utilisons de l'énergie. Et avec tous les autres frais opérationnels, vont créer une vague inflationniste très très forte. Donc nous devons tenter de gérer bien cette situation et notre solidité financière, notre modèle d'entreprise nous permet de le faire avec beaucoup d'espoir pour poursuivre notre démarche d'investissement fort dans les marchés du café, surtout à niveau international.
Alors justement, sur le prix du café, vous avez annoncé déjà une hausse de vos prix de 8 à 10%. Et en même temps, sur l'Arabica, sur le Robusta, vous connaissez, vous subissez des hausses d'entre 60 et 80%, hein, je crois.
C'est plus, c'est environ 100%. Nous sommes partis avec ces hausses de prix l'année passée, donc nous avons anticipé un peu toute la vague inflationniste qui depuis est arrivée et a touché tous les autres matières premières, comme l'énergie, bien sûr, les transports, la logistique. Donc, vraiment, il s'agit d'affronter une augmentation des prix qui est très, très forte. Mais nous avons fait, bien sûr, un bon travail, je pense, avec des économies internes, sans renoncer à notre qualité. Et bien sûr, avec aussi une compression des marges qui nous a permis de mitiguer un peu l'hausse des prix qui nous sont obligés à transférer sur les clients et sur les consommateurs.
Oui, en même temps, 6 à 10% de hausse de prix du café, sachant qu'on en consomme de plus en plus, notamment avec le télétravail, est-ce que c'est pas, on voit le pouvoir d'achat, problème numéro un, priorité des Français, j'imagine sur l'Italie c'est la même chose, comment faites-vous pour le faire accepter, pour la faire accepter cette hausse des prix ?
Bien sûr, c'est un problème, c'est une hausse des prix réels, c'est-à-dire correspondre à des ordres que nous avons qui ont affecté en effet notre entreprise. Ce ne sont pas des spéculations. Et donc, il faut tenter de garder la compétitivité de l'entreprise et bien sûr les volumes et le marché. Donc, nous avons tenté de limiter au maximum l'augmentation des prix, qu'il s'agit d'être environ entre 8 et 10%, qui est un parti minimum par rapport à ce qui nous avons. Nous devons supporter.
Giuseppe Lavazza, je disais que vous êtes vous êtes la quatrième génération. Ça fait 125 ans que votre entreprise a été créée. Est-ce que vous avez déjà connu, votre famille a déjà connu des chocs comme ceux qu'on traverse aujourd'hui ?
Alors, dans notre.
Sur le plan économique,
bien sûr. Dans notre métier, les gelées qui frappent le Brésil sont des phénomènes météorologiques qui passent chaque 8-10 ans. Donc, c'est normal d'avoir des situations comme ça. Mais cette année, la situation est en effet absolument nouvelle parce que, à côté de cette augmentation, nous avons tous les cadres inflatifs qui a vraiment changé et bousculé le système économique à niveau mondial.
Oui, parce que je parlais des prix de l'électricité, des prix enfin de l'énergie, on parlait des prix du café, et puis bien sûr il y a le prix du transport, il y a le prix de l'emballage,
oui. Tous les matériels primaires sont affectés par ça. Il y a aussi le manque de certains produits, donc les retards dans les livraisons, les problèmes au niveau des transports, le manque de containers. Le manque de navires. Donc, c'est une situation de tension totale qui traverse toute l'économie.
Oui. Le transport, comment faites-vous? Parce qu'on voit bien qu'il y a un problème de fret maritime colossal. Est-ce que du coup, est-ce que le fret se fait par avion? Comment est-ce que vous faites venir votre café dans vos usines italiennes?
C'est un navire 100%, c'est-à-dire container, navire qui part de port du Brésil, de port aussi de l'Asie. Donc nous avons souffert aussi le problème du bloc de certaines portes, par exemple les portes chinoises ou les portes américaines.
Le Shanghai dont l'embargo doit être levé, je crois, mercredi, enfin après-demain. Mais oui, donc vous avez... Est-ce que le chiffre d'affaires sur les 6 premiers mois de l'année, ça va être quoi le chiffre d'affaires de Lavazza lorsqu'on regarde, je parlais de 2,3 milliards lions, ça c'était en 2021. Oui. Qu'est-ce que ça va donner premier trimestre?
Il y a beaucoup d'incertitudes maintenant sur les marchés. Nous avons eu la bonne chance d'avoir en 2021 très bon, donc nous sommes forts pour continuer à faire nos investissements. Les premiers mois, bien sûr, ont été un peu difficiles, mais on voit un peu des reprises. Donc, pour l'instant, l'inflation n'a pas encore affecté le consommateur au niveau des volumes qu'il achète.
Ouais. Vous avez annoncé, et c'est une des raisons pour lesquelles vous êtes là, que vous alliez augmenter vos prix de 8 à 10 % rogner sur les marges. Mais le consommateur, est-ce qu'il va l'accepter? Et surtout, est-ce que la grande distribution va l'accepter? Nous, il y a eu des négociations commerciales, il y a de nouvelles négociations qui sont ouvertes avec toutes les hausses dont vous avez parlé, Giuseppe Lavazza. J'imagine qu'en Italie, c'est la même chose. Est-ce que la grande distribution accepte vos hausses de prix?
À niveau européen, la situation, c'est égal. Mais quand il s'agit, naturellement, d'aborder des problèmes inflatifs réels comme ça, naturellement, il y a des négociations, il y a des discussions, il y a beaucoup de transparence d'un autre côté. Et donc, la distribution va accepter les demandes d'hausse des prix. Et bien sûr, notre entreprise tente d'agir avec beaucoup de responsabilités pour ne pas affecter trop les achats des consommateurs. Nous savons que les bilans des familles, des foyers, est touché beaucoup pour les hausses des prix qui sont dans toutes les catégories, à partir de l'énergie, bien sûr. Les préoccupations sont très hautes, donc nous avons toujours une démarche très responsable, durable, avec le tentative de limiter au maximum l'effet de la hausse des prix sur la bourse des consommateurs.
Oui, mais en même temps, vous avez un passage obligé, c'est la grande distribution.
Oui, bien sûr, ils sont notre partenaire, pas seulement notre contrepartie. Donc, nous devons tenter de...
Elles ont les grandes distributions, notamment en France, mais en Italie, elles ont accepté votre hausse des taux, de 10%.
Ont été acceptées parce que tout le monde comprend qu'il s'agit d'un problème réel. Bien sûr, il faut agir avec beaucoup, je l'ai dit, de responsabilités, avoir la conscience des problèmes de notre client et aussi de notre consommateur.
Est-ce qu'il faut s'attendre à une nouvelle hausse des prix?
Pour l'instant, non, parce que le marché est en équilibre. Nous avons déjà fait une saut important. Et donc, nous pensons de résister, d'être résilients, d'avoir la force financière pour absorber dans le futur peut-être des augmentations.
Ouais. On le sait maintenant, il y a de plus en plus... Enfin, les consommateurs font de plus en plus attention sur les conditions d'exploitation, notamment du café. Qu'est-ce que vous avez pris comme assurance en termes d'ESG, mais aussi tout simplement en termes d'exploitation de café?
Lavazza est toujours très engagé dans une stratégie de développement durable. Il y a, je pense, 20 ans que nous travaillons beaucoup avec les pays producteurs pour le développement des projets pour rendre plus fort les communautés de producteurs de café. Nous avons...
Mais ça veut dire quoi? Pardon, ça peut faire un peu de la communication, ce que vous nous dites. Ça se traduit comment?
Est-ce que... Nous avons, dans le 2004, fondé une fondation Lavazza qui s'occupe régulièrement des actions de collaboration avec les communautés de producteurs de café. Le but est de tenter de faire des transferts, surtout des connaissances, pour permettre aux producteurs d'être plus résilients, de produire plus de café, de volume, de qualité, et de le faire avec une démarche durable et responsable aux ressources de l'environnement.
Ouais. Est-ce que ça veut dire que pour Lavazza, peut-être une réflexion sur des diversifications possibles, ou vous restez en café, café, café?
Nous restons café, café, café. Nous sommes des professionnels du café. La maison a été fondée en 1895. Nous avons développé un très bon business sur les cafés. Nous pensons que les cafés restent un secteur de l'économie très dynamique et très intéressant. Il y a des possibilités pour notre groupe de grandir notre action et notre business, surtout à niveau international, qui maintenant est environ 70% de notre total chiffre d'affaires.
Vous êtes présent en... Est-ce que vous êtes présent en Asie? Je ne sais plus.
Nous sommes présents en Asie avec une joint venture très intéressante que nous avons signée avec notre partenaire Yum China, avec le but de développer une chaîne de coffee shop dans ces pays. Nous sommes déjà arrivés à 60 coffee shops. L'idée est d'arriver en 5 ans environ à 1000 coffee shops. Le développement a été un peu bloqué maintenant parce que...
C'est-à-dire même encore maintenant,
oui.
Parce qu'on voit bien que les conditions politiques, ont quand même, donc économiques, ont beaucoup changé.
Exactement, mais nous restons très optimistes de pouvoir poursuivre notre croissance en Chine à travers cette opération et avec ces partenaires qui est très fiable.
Et vous pourriez justement développer ces coffee shops, mais ailleurs?
Non, nous pensons que c'est une opération qui reste concentrée sur la Chine.
Et donc, pourquoi? Parce que non, mais quand Chine... vous voyez le succès d'un Starbucks, on se peut dire pourquoi on ne verrait pas le succès d'un Lavazza Cup ou je ne sais pas.
Avant tout, le coffee shop est un métier qui nous n'appartient pas beaucoup. Nous sommes vraiment un torréfacteur. Donc pour faire ça, nous avons besoin de trouver un allié. Et cette société, Yum China, est très fort dans le développement de ce concept. Et pour la Chine, est parfait. La Chine, déjà, est un grand marché. Donc, nous pensons que notre ressource financière sont suffisantes pour faire un bon travail là. Et espérons de le faire avec ces sociétés.
Vous importez combien de tonnes de café? Je disais que vous, en introduction, Giuseppe Lavazza, que vous fabriquiez 30 milliards de tasses chaque année.
Oui.
De tasses de café, bien sûr. Enfin, du moins dans le contenu. Vous importez combien de grains de café?
Notre unité de mesure est les sacs de café. Les sacs de café sont 60 kilos. Et nous travaillons chaque année avec plus de 4 millions de sacs de café.
Ouais. Et qui vient essentiellement d'Amérique du Sud?
Non, nous achetons notre café d'environ 15 ou 20 pays dans le monde. C'est-à-dire, nous touchons différents continents, l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale, l'Afrique et l'Asie.
Ouais. Une question quand même, peut-être pour finir, puisque j'ai commencé par là, vous êtes de passage à Paris. D'abord, merci de parler aussi bien le français.
Merci.
Vous êtes là parce que vous avez signé un partenariat important avec Roland Garros. Alors pourquoi le tennis et pourquoi le tennis français? Vous avez le tournoi à Rome aussi, c'est le grand concurrent de Roland Garros. Pourquoi? Ça fait, je crois, 7 ans que vous êtes en partenariat et vous avez encore re-signé jusqu'en 2025.
La France, pour Lavazza, est un pays clé. Après l'Italie et le deuxième marché, nous sommes très affectionnés à la France. Nous sommes arrivés ici en 1982. Cette année, nous célébrons 40 ans d'activité ici en France avec deux marques, Leader, Carte Noire et Lavazza. Donc, Paris pour nous, Paris occupe une place de choix pour nous. Donc, nous sommes vraiment liés à cette ville qui est un vitrine internationale très important. Le tennis fonctionne très bien avec les cafés. Nous l'avons découvert en 2011 avec le premier tournoi sponsorisé par Lavazza, c'est Wimbledon. Et Paris est la confirmation de ce mariage, de parrainage, et offre à Lavazza vraiment l'occasion de démontrer sa capacité de gérer les plus grands coffee shops du monde. Parce que vraiment, les tournois se transforment dans les plus grands coffee shops du monde, dans un endroit magnifique, un cadre fabuleux.
Oui, c'est dommage, il n'y a pas beaucoup d'Italiens, il n'y a pas beaucoup de Français. Hein. Non, c'est ça qu'on peut se dire. Ça vous coûte combien, un partenariat avec Roland Garros?
C'est un partenariat complexe au point de vue surtout opérationnel. C'est un budget qui nous pouvons supporter dans notre budget en général de marketing.
Et c'est quoi votre budget?
Le budget, c'est réservé. Je n'ai pas la possibilité de révéler la chiffre. Mais avec beaucoup de plaisir, chaque année, nous faisons cet investissement et tentons d'être à la page avec un tournoi qui investit beaucoup et a changé beaucoup de choses pendant cette dernière...
Et vous n'avez pas misé sur le football, parce qu'en plus, je crois que vous étiez au fameux match où il y a eu, à la finale, où il y a eu tous ces problèmes de débordement. Et vous avez vu quelque chose qui vous a étonné?
J'ai vu...
Témoignage en direct de Giuseppe Lavazza.
J'ai vu le match chez moi, à Turin.
Ah bon,
mais,
d'accord. Okay,
mais j'avais des amis qui sont venus et a eu vraiment beaucoup de peur à l'entrée, parce que la situation était inquiétante et difficile.
Oui. Merci beaucoup. Là non plus, il n'y avait ni français ni italien. Merci beaucoup à Giuseppe Lavazza d'avoir été avec nous, donc vice-président du groupe Lavazza, qui va donc augmenter les prix du café entre 8 et 10%. Merci beaucoup d'avoir été avec nous dans un instant. On parlera d'Europe avec Aurore Laluc, économiste et députée européenne. Place publique, et face à elle, Patrick Martin-Jeunier, enseignant à Sciences Po. C'est un des meilleurs spécialistes de l'Europe. Et on voit que le sommet européen, ben, on n'a toujours pas d'accord. On va voir qu'est-ce qui peut se passer. À tout de suite.
BFM Business, le grand journal de l'écho. Edwige Chevrillon.
C'est l'heure de On refait l'écho avec Aurore Laluc, économiste, députée européenne, place publique. Bonsoir Aurore Laluc. Merci d'être là. Et puis face à vous, Patrick Martin-Jeunier, que j'ai le plaisir d'accueillir. Bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être là. Vous êtes enseignant à Sciences Po, à l'INALCO, c'est important, et donc un grand spécialiste aussi de l'Europe. Moins économiste peut-être qu'Aurore, mais justement comme ça on aura un peu les deux volets. Aurore Laluc, je commence par vous, place aux femmes. Sommet des dirigeants en ce moment même, oui. Les 27 sont là. On voit bien que c'est compliqué. Oui. Essayer de trouver une possibilité d'accord sur un embargo total sur le pétrole russe. Le problème, c'est qu'il faut l'unanimité et que Viktor Orban, il n'en veut pas.
Il n'en veut pas. Ouais. Il n'en veut pas. Il nous a dit clairement que... il voulait une exemption, c'est-à-dire que, en gros, il accepte l'embargo sur un certain type de pétrole, pas sur tout, pas sur celui qui vient des oléoducs, parce qu'effectivement, la Hongrie dépend beaucoup du pétrole, donc il veut un délai pour mettre tout ça en place, il veut des aides à la hauteur de 800 millions d'euros. En gros, pour le dire vite, il y a un très gros conflit entre l'Union européenne, la Commission européenne et Orban, parce que la Commission européenne a coupé des fonds à Orban. Orban, donc, joue le rapport de force, et puis il le dit lui-même, hein, c'est un cheval de Troie au sein de l'Union européenne, c'est-à-dire qu'il joue sur les deux tableaux, un coup en faveur de la Russie, un coup en faveur de l'Union européenne, quand ça l'arrange. Voilà, il le dit lui-même, je suis un cheval de Troie. Donc, tout l'enjeu de ce sommet, en fait, c'est d'essayer de ne pas paraître trop divisé. C'est ça l'enjeu. Hein.
C'est ça l'enjeu, notamment vis-à-vis des Russes, évidemment.
Oui.
Patrick Martin-Jeunier, lorsqu'il dit qu'il n'y a pas de compromis acceptable pour l'instant, ça veut dire qu'il demande plus d'argent. Que l'Europe, effectivement, comme le disait Aurore, accepte de lui verser des 800 millions qui, pour l'instant, restent bloqués pour des questions d'état de droit, comme on dit.
Oui, parce que ce pays est en rupture de ban avec l'Union européenne. Elle est en procédure d'infraction, les journalistes ne sont plus libres, il n'y a plus de presse indépendante, les magistrats sont poursuivis. Ce n'est plus un État démocratique, au sens où on l'entend, il ne respecte pas les valeurs, notamment les droits des minorités. Et donc, c'est un pays qui est complètement en rupture de ban. Donc là, ce qui se passe au Conseil européen, c'est aussi une sorte de règlement de compte, hein, vous l'avez dit. Et puis, quelque part, on parle de l'énergie, de l'économie, mais il n'est pas très loin de certaines thèses idéologiques de Vladimir Poutine. On dit qu'il est proche de Vladimir Poutine. Donc finalement, tout ce qui peut bloquer l'Union européenne est bon. On l'a vu ce matin, il a même critiqué la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, qui fait un travail formidable. Il a dit que sa position était irresponsable. Et donc, il la critique et il s'inscrit en faux contre tout acte de solidarité. Il veut autre chose, il veut de l'argent. Il a demandé de l'argent, notamment pour moderniser ses raffineries. C'est aussi une façon de récupérer sans doute des fonds structurels. Donc, il ne joue pas le jeu de l'Union européenne. Il bloque et ce soir, c'est encore bloqué, en effet.
C'est la question qu'on retrouve sur tous les tas d'autres sujets, sur les sujets de fiscalité aussi, bien sûr. La question de la règle de l'unanimité. Est-ce que là, on n'arrive pas à un moment où il faut prendre cette décision? Et quelque part, il y a aussi un enjeu de communication de la part même de la Commission européenne et de certains États de faire monter la pression pour dire, vous voyez bien, il faut changer les règles.
On est entièrement d'accord. C'est-à-dire que la question de l'unanimité, c'est plus possible. Ça nous bloque sur les questions fiscales. Ça veut dire que l'Europe n'a pas de ressources propres pour pouvoir faire ce qu'elle veut, déjà. Et ça frustre énormément de monde, notamment les Européens en premier, évidemment. Et puis, il y a la question de la défense, où là aussi, la règle de l'unanimité est bloquante. On sait que les lignes commencent à bouger sur ces questions-là, au sein des États, au sein de la Commission aussi, notamment dans un premier temps sur les questions fiscales. Nous, on va faire pression côté Parlement pour qu'elle déclenche le fameux article 116 qui permettrait de faire sauter justement cette unanimité. On sait que la Commission commence à être de plus en plus tentée. Elle cherche le bon exemple, en fait, pour pouvoir déclencher cet article. Mais maintenant, il faudrait le faire sur les questions de défense, parce que c'est urgent. Et puis, par ailleurs, il faut se dire aussi que l'Europe est habituée, finalement, à avancer en petits groupes. Hein, l'euro, tout le monde n'a pas l'euro.
C'est peut-être la seule exception, parce que rappelez-vous, vous n'étiez pas né, mais l'histoire des cercles concentriques de Jacques Delors, que vous avez connu, Martin.
Je suis un peu moins jeune, en effet.
Il y a plusieurs domaines où on a avancé.
C'est la solution.
Les cercles concentriques, une petite Europe, ça fait des années qu'on parle d'une Europe avec plus ou moins d'États. Il y a la possibilité, d'ailleurs, de faire des coopérations renforcées. Et c'est peut-être sur ce point qu'il faut réfléchir.
On va y revenir sur la fameuse coopération internationale. Mais juste pour rebondir sur ce que dit Aurore Laluc, Patrick Martin-Jeunier, vous êtes d'accord que la règle de l'unanimité, il faut trouver, il faut la supprimer, je ne sais pas quelle solution on peut trouver.
Oui, il faut trouver une solution pour avancer, parce qu'on arrive à un moment donné où l'Europe, sur des sujets essentiels, vous l'avez dit, la fiscalité, notamment la défense, ne peut plus avancer de concert, parce qu'il suffit qu'un État bloque pour que, on n'avance pas. Donc il faut réfléchir. Et d'ailleurs, c'est une des propositions qui a été faite par Emmanuel Macron à la suite de la Convention sur le futur de l'Europe. Il veut réfléchir à une réforme des traités, et je crois qu'il faut avoir une vision globale en réfléchissant sur une éventuelle réforme des traités qui permettrait d'élargir cette règle à la majorité.
Oui, mais tous les pays du Nord n'en veulent pas. Donc, vous voyez, essayons d'avancer, essayons d'être constructifs, c'est impossible. Tous les pays du Nord, pour le coup, dont on a besoin, ils n'en veulent pas.
Après, les choses évoluent quand même très vite. Je me rappelle que j'ai fait plusieurs plateaux ici, et je me rappelle avoir parlé de l'Europe de la défense. Et à juste titre, vous me disiez, non mais Aurore, ça fait 15 ans qu'on en parle de l'Europe de la défense, il ne se passe jamais rien. Et c'était totalement juste. Là, quand même, ça évolue un petit peu. Il y a plein de choses qui ont évolué, malheureusement, dans la douleur, c'est-à-dire qu'on n'est jamais capable d'anticiper, c'est quand même bien dommage, mais les choses évoluent. Là, on voit que le Danemark va avoir son référendum pour savoir s'il va participer ou non à l'Europe de la défense. On voit que certains pays rentrent dans l'OTAN. L'Allemagne, on va peut-être en parler tout à l'heure, se met à dire qu'elle va contourner ses propres règles pour pouvoir dépenser.
L'Allemagne, c'est énorme, dans la défense. Milliards.
Donc les choses bougent quand même un peu, donc peut-être qu'un jour cette règle va bouger aussi. Néanmoins, côté conseil, il y a un rapport de force qui est en train de s'établir vis-à-vis de la Hongrie. L'accord dans les 48 heures, personne n'y croit. Par contre, d'ici la fin de la semaine, c'est peut-être éventuellement jouable, à voir.
Oui.
Vous avez l'air dubitatif.
C'est les retours
Genier.
Que nous avons aujourd'hui.
Oui, il y a des retours.
À prendre avec des pincettes, évidemment.
Mais bien sûr, mais si on en croit le pré-communiqué final qui est publié avant le Conseil, même, on sait très bien. Et Ursula von der Leyen a dit qu'on n'y aurait pas d'accord. La France, je sais, a joué un rôle important en essayant de trouver un compromis. En disant, sur l'embargo du pétrole, on pourrait exclure ce fameux pipeline Drozba, qui vient effectivement directement par terre livrer la Hongrie, la République tchèque, la République Slovaque et éventuellement la Croatie, et puis ça ne concernerait que les livraisons par bateau, par conteneur. Donc là, il y a éventuellement cette possibilité. Viktor Orban veut un délai de 4 ans et non plus de 2 ans, veut de l'argent. Voilà. Donc le problème aujourd'hui, c'est de savoir jusqu'où aller pour faire un compromis. Est-ce qu'il faut obligatoirement aboutir à un compromis qui peut réduire peut-être la solidarité européenne et l'efficacité des sanctions économiques. Ceci dit, il n'y aura pas que l'énergie, il y a aussi d'autres sanctions qui vont être prises, notamment sur les banques, sur les commerces, sur les sanctions.
Oui, c'est un sixième volet de sanctions.
Et donc, l'énergie est un des éléments, mais il y a d'autres éléments qui sont importants pour continuer à sanctionner le régime de Vladimir Poutine.
Mais est-ce qu'on ne peut pas imaginer, je ne sais pas, il n'y a pas de compromis, je veux dire, à la limite, c'est pas un compromis européen qui est trouvé, et c'est il y a un embargo qui est fait par les 26 pays, et puis pas par la Hongrie. Qu'est-ce que ça, est-ce que ça serait possible? On s'assoit, tant pis, on s'assoit sur la Hongrie, quoi.
En fait, mais l'enjeu ici, je crois que, si l'Europe n'est pas unie, comme elle l'a été quand même plus ou moins depuis le début de cette crise, même si évidemment il y a eu des tensions, mais quand même, globalement, elle a été unie et globalement, elle a agi vite. deux choses assez étonnantes côté européen.
Venant de votre part, la Luxe, c'est quand même...
On est plutôt rapide au Parlement. C'est les États qui nous...
Grâce au Parlement européen.
C'est grâce au...
Le Parlement, qui quand même représente le peuple, met les pressions. Met la pression sur le Conseil européen, met la pression sur la Commission. Ça, c'est important.
C'est les États qui bloquent, la plupart du temps.
Les États qui bloquent. Et ça fait penser à la proposition d'Emmanuel Macron de dire qu'il faudrait absolument que le Parlement européen ait un droit d'initiative en matière législative.
Et puis, il faudrait qu'on ait le droit d'initiative, il faut qu'on puisse aussi, nous, choisir la Commission, du moins voter pour la Commission et pas juste valider. En fait, c'est ça.
Éternel débat.
Mais ça, effectivement, on a besoin d'une réforme institutionnelle. Non. En fait, l'enjeu, c'est de montrer Poutine veut une Europe faible. Il a envahi l'Ukraine parce qu'il pensait que l'Europe était faible et qu'elle ne réagirait jamais. Poutine veut une Europe molle, lente, divisée. Donc en fait, le sujet, il est là aussi, il est très symbolique. C'est-à-dire qu'on a besoin d'avoir un compromis et d'être unis pour lui montrer qu'on est fort.
Oui, mais
c'est ça qu'il ne veut pas.
Oui, d'accord, si mais un compromis avec tout le monde sauf la Hongrie, si on a pas, est-ce que c'est si grave que ça?
Si on n'est pas unis, c'est la victoire de Poutine.
Oui, à un moment donné, il faudra bien prendre des décisions d'ordre politique. Hein, c'est-à-dire qu'on assume et que, ma foi, la Hongrie, si elle bloque tout, bien, on décide à moins d'États, à 26 ou à 25, de bloquer un certain nombre de choses. L'unité européenne, elle est utile à partir du moment où un seul État, effectivement, ne bloque pas. Donc, à un moment donné, il va bien falloir mettre la Hongrie de côté. Ceci dit, la Hongrie, elle est un peu en désaccord avec les autres pays de Visegrad. Avec Vladimir Poutine, notamment la Pologne, les pays du groupe de Visegrad se sont divisés. Et donc, il est lui-même en situation isolé par rapport au groupe de Visegrad. Et c'est ça qui est intéressant.
Rapidement, parce que c'est juste pour avoir comme ça vos avis. Sur la communauté internationale qui permettrait d'intégrer en fait l'Ukraine, parce que l'Ukraine visiblement c'est
communauté politique,
est-ce que ça serait une bonne idée, est-ce que c'est une solution qui pourrait marcher pour d'autres pays ou pas?
Écoutez, je laisserai la parole aux politiques après. Moi, je trouve, en tout cas, Madame Colonna était en visite aujourd'hui à Kiev, et Monsieur Kouleba, ministre des affaires étrangères, a dit que cette solution n'était pas viable et qu'il attendait des signes politiques très clairs de la part de l'Union européenne. On est d'accord que l'intégration de l'Ukraine, ça prendra des années, peut-être pas 30 ans, comme l'a dit le président de la République, mais aujourd'hui, il y a une exigence politique.
Il y a 15 ans.
Voilà, deux éléments importants. Premièrement, la Commission doit rendre un avis assez rapidement et au mois de juin. L'Ukraine doit se voir octroyer le statut de candidat officiel. Ce sera déjà un pas politique très important. Et je crois qu'on ne peut pas laisser trop longtemps l'Ukraine à la porte de l'Union européenne, parce que ce serait encore une fois faire le jeu de Vladimir Poutine.
Entièrement d'accord. Ouais. On ne peut pas proposer... Pour moi, c'est une solution de seconde zone, en fait.
Communauté politique.
Oui, bien sûr. Et là, on sait très bien qu'effectivement, ça va prendre du temps, la candidature de l'Ukraine. Néanmoins, la politique s'est faite de symboles. Donc il faut absolument accepter et accueillir ce symbole. Par ailleurs, les Ukrainiens défendent l'Europe aussi en ce moment. Et je crois qu'ils ont plus que prouvé leur volonté d'adhérer à l'Europe. Je pense qu'ils le méritent peut-être plus que quiconque. Donc non, pas très favorable à cette idée de communauté politique.
Deux choses plus techniques pour revenir sur la réforme des traités. Parce qu'il y a le côté, il y a la réforme des traités, il y a la règle de l'unanimité, et puis il y a aussi... Les fameux critères de Maastricht sur lesquels, notamment la France, s'est confortablement assise. Est-ce qu'on peut les oublier? Est-ce qu'on peut les passer aux oubliettes? Même les Allemands, avec la question de la défense, là, ils contournent un petit peu. Ils ont trouvé un accord presque de coalition sur ce point-là. Mais ça, il faut... Est-ce que c'est mort, Maastricht?
Alors, écoutez, premièrement, sur l'Allemagne, ils ne sont peut-être pas au bout de leur peine, parce qu'il va falloir que le tribunal constitutionnel de Karlsruhe puisse se prononcer. Contourner la Constitution en Allemagne, attention, c'est presque un blasphème, donc je pense qu'il risque d'avoir quelques petits problèmes, mais on verra. Deuxièmement, sur les critères de Maastricht, il ne faut pas oublier une chose, c'est que c'est inscrit dans le traité, les règles, les règlements sur donc l'endettement et le déficit. La Commission est gardienne des traités, ce qui veut dire qu'elle a accepté de reporter un peu ces critères à 2000, un peu plus loin, 2023, mais pas plus. La Commission a dit, attention, il va bien falloir revenir à ces critères, d'où l'objectif de certains pays, dont la France et l'Italie, qui serait éventuellement d'assouplir encore plus ces critères, mais là, c'est encore une action au long cours.
La politique, qu'est-ce qu'elle en pense, la députée européenne ?
C'est l'économiste qui va parler. L'économiste pense que ces critères, c'est un non-sens. Ce sont des non-sens économiques, parce que l'économiste doit être contracyclique, prendre à chaque fois le contre-pied. On ne peut pas rester dans des critères figés comme ça. 3%, 60%, c'est des chiffres qui veulent aucun sens économique. De toute façon, on voit bien que ces règles ne sont pas bonnes, puisqu'à chaque fois qu'il y a un problème,
on les explose. Est-ce que c'est faisable ?
Symbolique. En fait, le problème, il est symbolique. Pourquoi ? Parce que ces dernières années, regardez, on a une présidente de la Commission européenne qui vient de la droite allemande. C'est pas la droite la plus détendue d'Europe, hein, qui a fait un virage écolo qui paraît peut-être pas assez pour certains. Vu d'où elle vient, je vous assure que c'est assez énorme.
Oui.
Sur la question de la fiscalité, avec l'accord OCDE dont j'étais rapportrice, on a avancé, même chose. C'est ça, c'était quelque chose d'assez incroyable. En gros, il ne reste plus beaucoup de totems pour l'Europe, de l'Europe néolibérale. Et de la côté de la droite, eh ben, ces critères, même si plus personne ne les respecte, il faut quelque part les garder vivants, même s'ils sont en état de mort cérébrale, disons-le clairement.
Eh bien, vous viendrez tous les deux, allez, je ne sais pas, d'ici quelques semaines, on verra si ça a bougé. Puisqu'effectivement, quand on reprend l'historique de vos présences ici, ça bouge. Voilà, on arrive à faire bouger les choses ici dans le Grand Journal. Merci beaucoup, Aurore Laluc, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, Patrick Martin-Jeunier. Vous reviendrez aussi nous dire si on peut trouver une solution. Voilà, c'est la fin du Grand Journal de l'Écho. On y est arrivé. Rediffusion, vous le savez, 22h minuit. Dans un instant, c'est une émission spéciale que vous propose François Sorel, un Tech & Co particulier avec de nombreux invités. C'était dans le cadre de We Are Viva Tech Challenge, avec notamment la directrice générale de Viva Tech, François Sorel, à suivre dans son émission spéciale.
Le Grand Journal de l'Écho sur BFM Business.